Cinéma. Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Bertrand Tavernier. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Donc, nous allons parler de Tavernier, parce qu'il vient malheureusement de décéder. Et c'est un réalisateur français qui a vraiment marqué son époque, puisqu'il a réalisé une vingtaine de films, et tous vraiment très très différents. Il a commencé au début des années 70, et son dernier film est Quai d'Orsay en 1992, et il a fait un autre film sur l'histoire du cinéma français. Alors l'originalité de Tavernier, c'est qu'il a été toute sa vie à la fois critique et historien de cinéma, et réalisateur. Alors en tant que critique de cinéma, il peut correspondre à la génération Godard, Truffaut, qui étaient des spécialistes, qui ont écrit pendant une dizaine d'années dans les revues. Mais eux ont arrêté quand ils ont fait du cinéma, alors que Bertrand Tavernier a continué. Il a défendu tout au long de sa vie des réalisateurs américains, à la fois connus et d'autres un petit peu plus, je dirais, marginales, qui étaient des réalisateurs de série B. Il a, par exemple, contribué à mettre en avant non seulement John Ford, mais aussi des réalisateurs comme Bud Boetticher ou André De Toss, qui étaient en particulier des réalisateurs de western. Et comme beaucoup de cinéphiles, il a toujours eu un attachement très profond au western. Donc, comme critique, il va intervenir sur diverses revues. À l'époque, c'est les Cahiers du cinéma, c'est Positif, etc. Et il va essayer, c'est un des premiers, à interviewer certains réalisateurs. La plupart des critiques regardaient les films et faisaient des remarques. Tavernier va aller, je dirais, à la source pour discuter un petit peu avec les réalisateurs de ce qu'ils ont voulu faire. Le seul qui a fait ça à l'époque, pour une fois, c'est Truffaut avec Hitchcock. Donc, Tavernier a continué toute sa vie cette activité d'historien, on peut dire historien et pas critique, et il a, on pourrait dire, été une encyclopédie du cinéma. Il a écrit en particulier un ouvrage qui fait référence. C'est un ouvrage qui s'appelait 30 ans de cinéma américain et qui a été réédité avec 50 ans de cinéma américain. Et une nouvelle édition était en chemin, si je puis dire. Et alors, je peux vous garantir que cet ouvrage, c'est un des plus gros dans ma bibliothèque. Il est très pesant et il est très volumineux. Et le contenu, c'est l'étude du cinéma américain classique, mais aussi des réalisateurs nouveaux, par exemple comme Tarantino ou d'autres. Donc, cette passion n'a jamais cessé. Et on pourrait comparer avec Martin Scorsese, qui a toujours été à côté de son activité de réalisateur, un défenseur de l'histoire du cinéma américain. Et Tavernier a défendu l'histoire du cinéma français. Son dernier film en 2016 était justement sur l'histoire du cinéma français. Donc, l'activité de cinéphile, de critique, d'historien, est jumelée en quelque sorte avec l'activité de réalisateur. Alors, il a été aussi attaché de presse. Alors, attaché de presse, ce sont les personnes qui viennent constituer un dossier pour défendre tel ou tel film. Ils sont au service des réalisateurs et des producteurs pour présenter ces films. Donc, on peut dire que cette activité d'historien n'a jamais cessé, en particulier maintenant quand vous voyez certains DVD, aller dans des librairies et regarder les DVD. Vous avez de très bons nouveaux DVD avec des bonus et un commentaire de Bertrand Tavernier. Et quand vous écoutez Bertrand Tavernier, vous découvrez le film. Il va vous dire, attention, là, au bout d'une heure, il y a tel plan qui se déroule comme ça. Et c'est particulièrement impressionnant. Quand on voit le film, on se dit, ben oui, il a tout à fait raison. Donc, cette activité était vraiment très forte. Alors, bien évidemment, l'activité centrale que nous allons évoquer rapidement ici, c'est l'activité de réalisateur. Alors, en tant que réalisateur, il a toujours été engagé politiquement. Il considère que dans la société, il y a des situations d'inégalité qui sont trop fortes et beaucoup de films vont étudier la délinquance, la violence, le chômage, la misère, la drogue, etc. Donc, c'est cette société, il considère que les moins riches se sont écrasés et ne peuvent s'en sortir peut-être que par une conquête violente comme une révolution. Donc là, la dimension sociale, la dimension de critique sociale est extrêmement intéressante parce qu'elle n'est quand même pas aussi développée dans les œuvres d'autres cinémas français. Donc cette approche du cinéma et sa conception du « message » entre guillemets, alors il n'y a pas de message entre, qui serait explicite, mais il y a toujours une analyse qui apparaît, comme je le disais, critique. Donc sa manière d'aborder les longs métrages va être de leur donner une particularité, et notamment à travers le lien créé avec certains acteurs. On peut dire par exemple que Philippe Noiret a participé à 6 de ses films sur une vingtaine, et qu'il a même tourné le premier film qu'il a réalisé, qui s'appelle L'horloger de Saint-Paul. Alors, bien sûr, on ne peut pas voir tous les films, mais on peut évoquer certains qui déjà montrent son caractère original. Donc, je vais prendre, je dirais, de manière arbitraire les premiers films, puis après, je vais piocher dans tel ou tel film qui paraît plus révélateur. Alors, le premier film s'appelle « L'horloger de Saint-Paul » en 1974. Et « L'horloger de Saint-Paul », il est inspiré par un roman de Simenon. Il se passe à Lyon. Il faut préciser que Bertrand Tavernier est originaire de Lyon et il utilisera cette ville à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cet horloger apprend que son fils a été arrêté parce qu'il a tué un vigile et l'horloger a du mal à comprendre pourquoi. Donc, c'est Philippe Noiret qui joue le rôle. Et l'intérêt du film, c'est qu'on n'essaie pas de montrer pourquoi, quel délinquant, comment il aboutit à cela, etc. On suit la démarche de l'horloger, Philippe Noiret, qui va petit à petit comprendre son fils. Et la logique est donnée par Tavernier, c'est de dire oui, il a tué un vigile, mais en réalité, est-ce qu'il ne fallait pas le tuer ? Bon, ça va quand même très très loin. C'est la dimension critique de la gauche par rapport au pouvoir, par rapport à ces personnes actives dans certains groupes qui veulent protéger absolument le pouvoir. Donc il est intéressant de voir que son premier film est déjà engagé et il est déjà avec Philippe Noiret. Et là, la leçon en fait, du film, c'est finalement que Philippe Noiret comprend son fils. Il a toute une évolution. Lui, qui était absolument légaliste, il va aller plus loin. Alors au départ, c'est un petit peu comique, il viole un feu rouge. Et après, petit à petit, effectivement, il se dit « mais c'est la société qui l'a peut-être rendu comme cela ». Donc la manière dont Philippe Noiret va être dans la compréhension par rapport à son fils, c'est ce qui est marquant et ce qui est original par rapport à d'autres films sur lesquels on peut réfléchir. Alors un deuxième film que l'on peut évoquer, c'est Que la fête commence. Alors Que la fête commence, c'est un film historique qui suit la régence de Philippe d'Orléans. Et contrairement à la plupart des films en costume, on essaie de dépeindre la réalité derrière le costume, justement. Et Philippe d'Orléans était réputé pour organiser des orgies, et il passait donc ses soirées avec un autre personnage qui s'appelle l'abbé Dubois, qui était un petit peu son premier ministre. Et il y a des éléments très ironiques, très critiques, mais aussi très crus qui apparaissent, qui font que le film a quand même été mal reçu par certains traditionalistes. Mais très original. Alors, à la fin, d'ailleurs, il y a un carrosse qui est attaqué, il y a un feu qui est mis. Donc, c'est une dimension déjà qui annonce, en quelque sorte, la révolution, alors qu'on est encore un petit peu plus tôt. Alors, le troisième film, c'est Le juge et l'assassin. Le juge et l'assassin, donc, qui et une performance d'un acteur qui fait l'assassin qui s'appelle Michel Galabru. Michel Galabru a toujours fait des films pseudo-comiques, du genre Le Gendarme, etc. Des films pas terribles, où il disait qu'il fallait qu'il nourrisse sa famille et qu'il nourrisse ses femmes divorcées. Et il va camper un assassin qui est à la fois déséquilibré, qui est un fou de Dieu, qui est anarchiste, qui est dans une situation de tueur en série, où il va agresser, tuer, violer, etc., un certain nombre de bergers ou de bergères d'un âge assez jeune. Et le juge, donc, c'est Philippe Noiret, et il y a un rapport qui existe entre les deux. Le juge essaie d'entortiller l'assassin pour qu'il avoue tous ses crimes et qu'il soit condamné, et il essaie de nouer une sorte de complicité avec cet assassin. Et en même temps, le titre « Le juge et l'assassin », est-ce que le juge n'est pas l'assassin ? Donc, dimension d'analyse qui est tout à fait intéressante. Et il y a une musique qui existe dans ce film et qu'on va passer maintenant. Donc, le juge et l'assassin, c'est le troisième film qu'il a tourné. Alors, je vais en passer certains pour me concentrer sur les plus intéressants ou révélateurs. Bon, après le juge et l'assassin, il fait Des enfants gâtés, qui est là une analyse politique sur la réalité à ce moment-là, c'est-à-dire un écrivain qui va quitter son domicile pour aller se placer ailleurs afin de préparer ce qu'il veut être un scénario. Et il tombe dans un immeuble où il y a des problèmes, et lui, qui était tout à fait extérieur, va s'impliquer dans ces problèmes. Alors, il y a un film qui n'est pas très très connu, mais qui est absolument extraordinaire, parce que déjà, c'est la société du spectacle. Ça s'appelle La mort en direct. Alors, La mort en direct, il y a Romy Schneider, qui joue le rôle principal, et il y a, de manière étonnante, un acteur qui commence déjà à être célèbre à travers Scorsese, c'est Harvey Keitel. Donc Harvey Keitel qui joue dans un film de Tavernier, ça traduit aussi l'intérêt de Tavernier pour le cinéma américain. Donc la particularité du film, c'est un petit peu quand même de science-fiction. Romy Schneider joue une femme en train de mourir, qui est en mauvais état, qui part, qui se cache, et on va envoyer Harvey Keitel, à qui on a greffé une caméra dans l'œil. Et donc, il va filmer cette détérioration progressive de l'état de santé. Je précise que le film est de 1980. Donc, société-spectacle, voyeurisme, ce sont des éléments qui marquent ici et qui seront habituels plus tard. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas des éléments qui sont considérés comme importants. Donc, La mort en direct, encore une fois, c'est une œuvre exceptionnelle. Et vous voyez déjà ce que je vous ai dit sur Tavernier, un film historique, un film contemporain, un film historique à nouveau, un film contemporain, avec chaque fois une dimension d'analyse sociale, de dénonciation de ce qui ne fonctionne pas dans la société. Et donc, on peut dire que déjà, il y a une œuvre en gestation et qui se manifeste. Ce n'est pas courant d'avoir un réalisateur qui touche des thèmes aussi particuliers et différents. Beaucoup de réalisateurs, quels qu'ils soient, je ne citerai pas de nom, parfois ont tendance à évoluer et vont, je dirais, s'encrouter. Donc s'encrouter, ils reprennent les mêmes thèmes, ils sont plus originaux et, je dirais, ils perdent un intérêt. Alors on les aime bien, on continue à les voir, mais on se dit, bon, par rapport à ces films qu'il a fait avant, c'est pas terrible, il reprend la même thématique. Bon. Parfois, on peut dire ça de Jacques Tati, de Woody Allen, de bien d'autres qui ont eu du mal parfois à évoluer. Même si, encore une fois, je ne veux pas critiquer, je les défendrai mordicus, ces réalisateurs. Mais Tavernier, c'est quand même différent. Il fait un film nouveau chaque fois, il amasse une pierre et il ne revient pas en arrière sur d'autres films. Sauf peut-être sur quelques thèmes, mais des thèmes complémentaires. Alors après Mort en direct, vous avez Coup de torchon. Alors Coup de torchon, beaucoup de films ont été rediffusés pour donner un hommage à Tavernier. Coup de torchon, c'est un personnage qui est dans la version livre un shérif et qui là est devenu un représentant de la loi dans un état africain. Et il est soumis à tout le monde et puis tout d'un coup il prend l'ascendant. Il a un mouvement de révolte et il va faire un coup de torchon. Coup de torchon, ça veut dire qu'il va tuer plusieurs personnes pour dégager. Et il rentre petit à petit dans une forme de folie qui est montrée de manière remarquable par le réalisateur. Donc, là aussi, La mort en direct, Le coup de torchon, ce sont des films qui vraiment sortent de l'ordinaire. Alors, après... il y a des films, je dirais, qu'on peut rapprocher parce qu'ils creusent toujours le même sillon. Et en particulier, il a fait des films de guerre. Alors, les films de guerre, le plus violent, il s'appelle Capitaine Conan. Capitaine Conan, c'est un film qui montre, pendant l'Après-guerre mondiale, la manière dont un homme, Capitaine Conan, un officier, va se jeter dans la bataille avec une violence extrême. Et... il montre en fait que la guerre, c'est dégueulasse, mais il montre à travers un personnage qui fonce, qui ramène ses troupes et qui arrive à être bien vu de ses officiers supérieurs. Mais il a cette dimension de violence qui va se trouver vidée quand l'armistice et la paix arrivent. Et à la fin, il se retrouve dans une espèce de bar, plus ou moins alcoolique et complètement, je dirais, raté. Parce que finalement, son destin, sa volonté, c'était l'action militaire et c'était le combat. Donc, Capitaine sans nom, c'est une approche de la guerre qui est critique, qui est originale et qui marque encore une fois la dimension critique, la dimension sociale de Tavernier. Donc, cette guerre, il va aussi la voir d'une autre manière. C'est l'après-guerre. C'est un film qui s'appelle La vie et rien d'autre. C'est un film de 1989. La vie et rien d'autre, c'est à nouveau Noiret, Noiret qui fait un officier, qui est chargé d'identifier les corps de soldats. Et donc, il va entre guillemets, se promener à travers les charniers pour essayer de voir qui est qui, etc. etc. Et franchement, personne n'a fait ça au cinéma. On fait le film de guerre, mais on ne fait pas le film sur qu'est-ce qui se passe après la guerre, comment on identifie les corps. Comment on peut chercher peut-être le soldat inconnu pour l'Arc de Triomphe? Bon, c'est quand même, encore une fois, original. Et dernier film de guerre, mais documentaire, il a fait un des premiers films sur la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, on a essayé de l'intégrer depuis une vingtaine d'années, mais lui, il fait un film en 1992. Le film en 1992 s'appelle La guerre sans nom, et il va, dans le cadre de ce documentaire, interviewer des combattants et savoir qu'est-ce qu'ils ont comme plaie, comme blessure. Encore une fois, 1992. Et toujours cette dimension, oui, en fait, ils ont fait ça, mais maintenant, ils vont le regretter, ils vont le dire. Dans le cadre de cette parole libérée par rapport à la guerre d'Algérie, il y a eu, pendant très longtemps, mais c'est valable pour toutes les guerres, les soldats reviennent, ils ne disent rien, quelle que soit la guerre. Et parfois, ils vont jusqu'à leur mort, ils ne disent rien. Et là, avec la guerre d'Algérie, on a assisté à une sorte de réveil de ceux qui avaient tué, qui avaient torturé, qui avaient aussi souffert. Donc, La guerre sans nom, film documentaire, qui montre une dimension particulière, qui annonce ce qui va se passer à partir d'une dizaine d'années après. Donc, original, original, original. Il y a des films qu'on pourrait classer, je dirais, sur la dimension du service public. Alors, la dimension du service public, c'est l'école. Alors, il fait un film sur l'école qui est déjà assez particulier, qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». Et Philippe Toureton, qui jouait dans Capitaine Conan d'ailleurs, Philippe Toureton fait le directeur d'une école primaire qui se trouve confronté à tout un tas de problèmes. Problèmes qui sont issus de l'absence de financement, de la difficulté de tenir face à un service public qui est très difficile. Donc on a la mise en place d'une critique de l'école. Et après, il fera aussi une analyse en 1992, L627, c'est un film sur la police. Mais alors la police, là encore, comme on ne l'a jamais vu à ce moment-là, c'est la police, je dirais, de bas étage, qui n'a pas de matériel, qui essaie de se faire passer, ils appellent ça un soum, c'est le sous-marin, une voiture qui va espionner autour. Donc, dimension critique là aussi, en disant, voilà, effectivement, ça ne fonctionne pas, et c'est quelque chose qu'il faut revoir. Donc, on a plusieurs films encore, mais on va passer encore peut-être une musique sur un film de Tavernier, encore une fois. C'est la fille de D'Artagnan. La fille de D'Artagnan, donc, encore une fois, Philippe Noiret. Et Bertrand Tavernier a toujours aimé les films historiques à costume. Et il aime en particulier des réalisateurs italiens, Riccardo Freda et d'autres, qui sont considérés comme vraiment pas terribles. Et là encore, Bertrand Tavernier essaie de les réévaluer. Et donc là, il prend Noiret, D'Artagnan vieux, et il y a une fille qui est jouée par Sophie Marceau, qui vient le trouver et ils commencent une sorte d'épopée ensemble. Il y a un humour, il y a un rythme qui est vraiment remarquable. Et cette manière enlevée de faire de l'action, il ne le fait pas dans d'autres films et il le met en place ici. Alors, il y a d'autres films historiques. D'autres films historiques. J'ai cité tout à l'heure Que la fête commence, donc je n'y reviens pas, film historique. Et il a tourné aussi La Passion Béatrice et La Princesse de Montpensier, qui, effectivement, se passent sous l'Ancien Régime. Et toujours une analyse fraîche avec un regard un petit peu original. Donc ces films historiques sont complémentaires et montrent toujours la démarche de Tavernier qui décrit l'époque, mais aussi met son analyse au service de la réflexion d'aujourd'hui. Alors il y a aussi l'amour de Tavernier pour les États-Unis et le jazz. Et ça, il va arriver à le faire passer. Alors, on a un documentaire qui a été fait en 83 qui s'appelle Mississippi Blues, où il fait une sorte de voyage avec un réalisateur qui s'appelle Parrish, dans, effectivement, dans le sud des États-Unis, et il décrit les lieux, l'atmosphère, les personnages, etc. Donc là, un documentaire. Mais aussi des films. Donc des films. Il a la mise en place d'un film qui s'appelle Dans la brume électrique. Ce film, donc, de 2009, va être joué par des acteurs américains et ça se situe aux États-Unis. Il y a un tueur en série, on suit l'enquête du personnage principal et donc c'est tout à fait un film policier ou d'atmosphère à l'américaine, mais qui est fait par un Français avec Tommy Lee Jones en vedette. Donc Tommy Lee Jones est quand même un acteur américain qui est aussi très 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 bon. Hein. Il est choisi comme Harvey Keitel pour Mort en direct ici, c'est cet acteur-là. Et il fait un autre film qui est, je dirais, non plus du documentaire, non plus un film de fiction, mais si, c'est quand même intermédiaire. Ça s'appelle « Autour de minuit » en 1986. « Autour de minuit », c'est inspiré d'une amitié réelle entre un jazzman qui vient des États-Unis, qui est à Paris, et un personnage qui va le rencontrer et en partie le soutenir, parce que le jazzman n'est pas toujours... dans une forme très très grande. Donc on a cette approche du jazz qu'on retrouve aussi, d'ailleurs c'est une parenthèse, chez Clint Eastwood avec Byrne, qui est sur Charlie Parker, et qui là aussi touche directement au jazz. Alors le film terminal, puisque c'est le dernier que je vais évoquer, c'est Quai d'Orsay. Alors après il y a Voyage à travers le cinéma français, mais qui est un documentaire. Le dernier film de fiction, c'est Quai d'Orsay. Que fait Tavernier ? Il fait pour la première fois un film, entre guillemets, comique, parce que ce n'est pas comique, je dirais, de bas étage. C'est extrêmement intelligent. On suit le ministre, le directeur de cabinet et tous les personnages qui gravitent autour. Et c'est extrêmement décapant. Il y a un acteur français extrêmement extraordinaire qui s'appelle Nils Sarastrup, qui fait le directeur de cabinet. Et qui est vraiment à mourir de rire. Alors que cet acteur a fait souvent des films tragiques, là, il est vraiment extrêmement comique. Donc, Quai d'Orsay, il termine Tavernier sur un film qui est, encore une fois, original. Au départ, c'était une bande dessinée. Il a adapté cette bande dessinée. Et il l'a adapté avec une forte originalité. Donc, voilà. Je tenais à parler de lui parce qu'il a marqué vraiment le cinéma français dans divers domaines. Et j'espère comme ça, vous pourrez la prochaine fois voir un film de Tavernier avec un petit peu de recul, je dirais, historique. C'était Cinéma, Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Yanis Boudin. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.